O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá à todos, il est 14h03, vous êtes sur Radio Alpha pour Thémestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Antonin, Laura et Liana sont de retour, comment ça va?
Ça va, super. Et écoute, vous?
Une magnifique semaine pour vous. Voilà, j'espère pour vous c'était la même.
Eh ben écoute, c'était fatigant mais on est là. Et notre experte Anna Sara est aussi avec nous, elle nous présentera Panorama Ibero-Americano d'ici 30 minutes, comment ça va?
Ça va et toi? Et comment tu vas?
Ça va, merci. Et au programme aujourd'hui, culture, sport, musique et théâtre, puisque nous recevons l'acteur et comédien Lionel Cecilio. Comment tu vas, Lionel?
Et ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir.
On est très très content de te recevoir. En plus, tu es déjà venu sur Thémestade.
Mais oui!
Il y a un
c'est
moment.
Pas ma première. Oui, c'était il y a quelques années là, mais
ouais,
oui.
C'était au tout début. Et puis, on en parle dans les bons plans depuis plusieurs semaines. Tu es actuellement en représentation pour ton spectacle La fleur au fusil à Paris. Donc, restez bien avec nous pour en savoir plus. Ce sera au moment de l'interview à partir de 14h45. En attendant, je vous laisse avec le dernier single de notre chère Anna Rita, Arrow. C'est sorti hier, ça s'appelle Another Way. Vous pouvez aller voir la vidéo sur TikTok et Instagram, arrow.me, donc arrow.mm. Allez lui donner de la force et on s'écoute ça tout de suite.
This world, good little girl, always did what they told me, but inside I knew I wanted more. We need to be big enough to cause a stir, but outside the world is cold, no one is who they seem to be. With my share, I'm gonna show up and show up. Should I can, but I'm scared. I don't wanna make a mess, and then you'll come and make me feel like I'm not good enough. And I'm a fool to believe you when I don't mean to. It takes a toll on me. God, I wish I had the answers.
De l'événement de la semaine sur Thémestade de Sponton et ce soir a lieu un concert de solidarité qu'il ne faut pas rater. Est-ce que vous en avez entendu parler, juste si je vous dis ça comme ça?
C'était lié au Cap Vert.
Exactement. Cet été, le Cap-Vert a été l'objet d'une catastrophe naturelle. Je pense que vous l'avez tous vu, causée par une tempête tropicale. Et l'association Crianças de Hoje e de Amanhã, CHEDA, organise donc un concert caritatif en soutien aux sinistrés de la tempête. Ce concert s'appelle Tous Ensemble pour le Cap-Vert. Très beau nom, je trouve. Donc rendez-vous ce soir, c'est à La Cigale, donc au 120 boulevard Marguerite de Rochechouart, dans le 18e, à 20h. En plus, c'est une salle que j'affectionne tout particulièrement. Je vous recommande vraiment, je pense que t'aimerais bien jouer dans cette salle un jour.
Ah, c'est plus une salle de concert, je pense.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
C'est moins une salle de spectacle. Ouais. C'est plus de la musique, ouais.
Ouais, mais je trouve que cette salle est magnifique pour les concerts. Carrément. Vraiment, c'est incroyable. Et donc, ce concert de solidarité regroupe des artistes engagés et mêle de nombreuses sonorités capverdiennes, comme évidemment la morna, la batuku, le funana, tout ce qu'on connaît et qu'Antonin nous a déjà présenté aussi. Et tous les profits sont évidemment reversés aux associations qui sont sur le terrain. Avant de vous citer les nombreux artistes qui seront présents, sachez que le concert est seulement à 35 €, pas très cher, placement libre, balcon ou fosse, un bien bas prix pour les artistes que je vais vous citer et pour aider le Cap-Vert. Donc, je laisse pas plus de suspense. Voici les artistes que vous pourrez retrouver ce soir. On a Batiar, Carlos Lopez, qu'on connaît bien, Cezani, Chando Graciosa, Dick Quintal, Dina Medina, Elida Almeida, Elio Bataille, Jennifer Soledad, la MC Malcriad, Lisandro Cucci, Mariana Ramsch, Pilax, Ronicia et Théophile Chantre. Vraiment 15 artistes capverdiens de qualité qui sauront vous faire danser, c'est sûr. Et pour l'occasion, notre cher Carlos vous a laissé un message.
Bonjour, c'est Carlos Lopez. Je suis ravi de vous annoncer que je serai en concert ce samedi 11 octobre à La Cigale à Paris. Ça va être un concert caritatif où le but est de récolter un maximum de fonds pour venir en aide au Cap-Vert, aux habitants des îles du Cap-Vert, tout particulièrement l'île de San Vicente, où il y a eu des catastrophes récemment. Et c'est vraiment un concert où il y aura des très bons artistes capverdiens, aussi bien de la diaspora, il y en a certains qui viennent directement du Cap-Vert. Et c'est vraiment un mélange entre la musique traditionnelle et vous aurez aussi le côté plus moderne avec du hip-hop ou du R&B, etc. Je vous invite donc à nous rejoindre ce samedi 11 octobre à La Cigale à Paris pour qu'on puisse passer vraiment un moment ensemble, mais surtout un moment de solidarité. À samedi.
Merci beaucoup Carlos. Rendez-vous donc ce soir 20h à La Cigale pour le concert Tous Ensemble pour le Cap-Vert. Je crois que Liliana y va.
Oui, tout à fait, j'y vais ce soir, j'ai hâte d'y être.
Ouais,
ouais, donc toi, t'arrêtes pas de sortir, quoi. Tu passes ta vie dehors, non, parce qu'elle était à mon spectacle il y a deux jours, donc sous prétexte de la radio, en fait, tu passes ta vie à sortir auprès de la princesse, quoi. Elle se régale, elle.
C'est vrai, j'avoue.
Bah, elle a bien raison, franchement.
Mais là, ça va, c'est pour la bonne cause. T'as payé, j'espère?
Oui,
ah,
oui.
Merde, je l'ai mis dans la merde, non, elle a pas payé sa
évidemment.
Place. 35 balles, 15 artistes, Liliana!
La pauvre, non, on a payé, je vous rassure. Et c'est un concert caritatif, donc n'hésitez pas à prendre vos places s'il en reste. Je pense qu'il en reste pas beaucoup, donc foncez. Est-ce que toi, t'écoutes beaucoup de musique capverdienne ou pas, Lionel?
Alors, j'ai grandi avec le ministère amer, avec Stomy Bugsy, qui était capverdien, mais c'est pas de la musique capverdienne, mais en tout cas, qu'il le revendiquait. Je sais pas si c'est toujours le cas, d'ailleurs, il fait pas partie des artistes, mais en tout cas, à un moment donné, il a beaucoup revendiqué ses origines.
Ouais.
La musique capverdienne, précisément non. Après, il m'arrive que j'écoute des artistes. Par exemple, MC Malcriad, c'est de la musique que j'écoutais beaucoup, moins maintenant, mais du coup, quand t'as dit, ah ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Mais je connais pas surtout les musiques traditionnelles capverdiennes, évidemment. César Yévora, évidemment, non seulement c'est un monument, mais c'est une musique qui me touche énormément, mais la musique capverdienne en soi, pas tant que ça. Mais j'ai envie d'écouter, et surtout les musiques traditionnelles. Maintenant, depuis quelques temps, je fais un retour aux sources sur des musiques traditionnelles. Là, par exemple, je m'intéresse vachement au fado, mais dans les détails du fado, tu vois, je commence à faire les nuances entre le coimbra, le machin, tu vois ce que je veux dire, dont j'avais même pas connaissance avant. Et donc, ouais, je reviens un peu aux trucs traditionnels. J'aime bien le folklore des pays. Je trouve ça chouette, ouais.
Ouais, c'est hyper intéressant. Bah, du coup, rendez-vous ce soir. Bon, toi, tu sais que tu peux pas y aller, parce que
mais non,
tu
je serai sur scène.
En représentation. Ouais. Mais pour tous les autres qui peuvent y aller, n'hésitez pas à prendre vos places. En tout cas, restez avec nous d'ici 5 minutes. Liliana nous présente Capital Creative. Mais avant cela, mettons-nous dans l'ambiance de ce soir en écoutant le dernier single de Ronicia. C'est sorti en juillet. Ça s'appelle Swipe.
suis des graves hypes. On fait pas de semblant, on fait pas taille. Je suis trop canon, bébé, tu peux pas swiper. Non, non. Bébé, fais-moi danser si t'es grave hype. On fait pas de semblant, on fait pas taille. Je suis trop canon, bébé, tu peux pas swiper.
C'est que ton canon a envie de danser. Elle veut danser toute l'année. C'est moi qui choisis, bébé, rien n'est forcé. S'il vous plaît, baissez toute la nuit. C'est la folie, c'est pas fini. Ils disent mon nid, elle est bénie. C'est moi qui choisis, bébé, rien n'est forcé. S'il vous plaît, baissez toute la nuit. Et tu vois bien que j'ai pas le temps. Et j'ai que moi, y'a de ma main. Bébé, fais-moi danser si t'es grave. Et puis, on fait pas de semblant, on fait pas taille. J'suis trop canon, bébé, tu peux pas swiper. Non, non. Bébé, fais-moi danser si t'es grave. On fait pas de semblant, on fait pas taille. J'suis trop canon, bébé, tu peux pas swiper. Trop fraîche, mais j'suis pas au top. Oh, t'es gars, personne peut dire, j'connais pas son name. Police, m'arrête pas au stop. On y va, baby, elle et moi, c'est pas la même. Qui peut venir me balader? J'ai trop la mentale, trop haute pour m'escalader. Baby, parlons tel que j'connais mon karaté. Fais-moi danser sur G et me à la deck, yeah. Et tu vois bien que j'ai pas le temps. Et j'ai que moi, y'a de ma main. Baby, fais-moi danser si t'es grave hype. On fait pas de semblant, on fait pas taille. J'suis trop canon, baby, tu peux pas swipe. Non, non. Baby, fais-moi danser si t'es grave hype. On fait pas de semblant, on fait pas taille. J'suis trop canon, bébé, tu peux pas swiper. Bébé, fais-moi danser si t'es grave. On fait pas de semblant, on fait pas taille. J'suis trop canon, bébé, tu peux pas swiper.
Continuando na rádio que nos liga para o programa Temos Estado 2.1, chegou a tempo para a rubrica Capital Criativo. Então, Liliana, que aspecto do mercado da arte apresentas hoje?
Em ligação com a temporada França-Brasil, que aliás considero um meio ideal para promover trocas culturais entre os dois países e dar visibilidade à riqueza artística brasileira, decidi levá-lo a São Paulo, num dos maiores encontros artísticos do mundo, a Bienal de São Paulo, que abriu as suas portas no dia 6 de setembro. Para começar, eu acho que seria importante de distinguir dois tipos de eventos no mundo da arte, a Bienal e a Feira de Arte. Sabem qual é a diferença entre os dois?
Eu acho que há uma onde podemos comprar as obras e outra não.
É mais ou menos isso, Julie. A Bienal não tem nada a ver com uma feira de arte. Uma feira é um evento comercial onde as galerias vão para vender obras, enquanto uma Bienal é uma exposição não comercial, curatorial, que acontece a cada dois anos. O seu objetivo é refletir e questionar o mundo através da arte contemporânea e não vender. Vocês conheciam um pouco a história da Bienal de São Paulo?
Não, muito pouco. Eu também não.
Então, foi criada em 1951 por Francisco Matarazzo, sobrinho, e é a segunda mais antiga do Hemisfério Sul, e a segunda maior do mundo, logo depois da Bienal de Veneza, criada em 1895, com a qual mantém um diálogo constante em termos de relevância e inovação. Ao longo do tempo, a Bienal de São Paulo se consolidou como um dos principais eventos de arte contemporânea do planeta, comparável também com a Documenta de Kassel, na Alemanha, e que ela aconteça a cada de 5 anos. Imaginava como é que eu posso dizer? Bom, imagina o que pode distinguir esta Bienal das outras.
Que acontece em São Paulo?
Ah, é mais ou menos isso. A Bienal de São Paulo se destaca por uma característica central. Antes de tudo, está localizada no hemisfério sul. E é ao contrário das bienais, ela traz a sua identidade, na sua identidade, o choque entre culturas colonizadas e colonizadoras, as marcas de mestiçagens, de mestiçagem do povo, as lutas dos povos indígenas, bem como os saberes alternativos que resistem dominante do Ocidente. Portanto, ela é mais do que uma simples exposição de arte, é também um espaço de debates e de imaginação política. Neste ano, esta edição da Bienal, o título é Nem todos os viandantes andam... Uau! Nem todo viandante anda estradas da humanidade como prática, inspirado num verso da poetisa afro-brasileira Conceição Evaristo, do poema De Calma e do Silêncio. Essa escolha já dá o tom da exposição, introspectivo, plural e profundamente atento às tensões do presente. A direção curatorial, é assinada pelo renomado Bonaventure Sob Benjen Dikun, filósofo, curador e diretor do museu em Berlim. O projeto curatorial convida a pensar a humanidade não como um estado, mas como uma ação, um verbo, num mundo marcado por desigualdades, crises ecológicas e fraturas sociais. Propõe reinventar juntos o que significa ser humano. Neste ano, há uma novidade importante. A Bienal será prolongada por 4 semanas, acontecendo de 6 de setembro, como eu disse, até dia 11 de janeiro de 2026, com a entrada gratuita. É um gesto forte para democratizar o acesso à arte, especialmente durante as férias escolares. E antes mesmo da sua abertura em São Paulo, a Bienal já se colocou em movimento pelo mundo com as inovações, invocações. São encontros realizados em Marrakech, Guadeloupe, Zanzibar e Tóquio, e são momentos de escuta, improvisação e partilha que enriquece a exposição principal. Mas no fundo, o que procura esta Bienal? Talvez apenas lembrar-nos que a humanidade não é algo dado, mas algo que se pratica na lentidão, no encontro, no olhar dirigido ao outro. E, portanto, é um convite a viajar sem entrada, sem estradas, a ouvir o silêncio, a inventar juntos o que ainda pode significar ser humano, uma travessia mais do que um destino. E, aliás, se quiser saber mais sobre esta Bienal, recomendo visitar o Instagram da Bienal, Bienal São Paulo, ou o canal YouTube Arte Que Acontece, onde há podcasts muito interessantes sobre o tema.
Obrigada, Liriana. Acho que dá vontade de ir até São Paulo, não é?
É um bocadinho longe.
É verdade, mas algum dia, se calhar, quem me dera. E fica connosco daqui a 5 minutos. Viajamos até Brasil com a Ana Sara no panorama ibero-americano. Mas agora proponho ouvir o último single da Yasmin, saiu ontem e é És Só Tu.
Ligo mas está ocupado. lado. E és tu quem está do outro lado. Agora eu já nem disfarço. Estou a pensar em ti o coração. Não quer saber dessas chamadas. Sabes que é a ti que ele chama. Diz-me quando sentes falta. Eles esperam por mim, é por ti que eu espero. Eles querem, eu te quero. Essas ligações não têm comparação com o que eu sinto que é a nossa ligação. E por isso eu espero. Eles querem, eu te quero. Então deixa o fone a tocar, porque no fim tu sabes que é só tu. É só tu. Se ligam dá ocupado, porque quem tá do outro lado é só tu. De correio. A cama tá vazia, mas o meu voicemail tá cheio. Então enche-me o copo, acalma o corpo. Eles sendo és o foco. És tão diferente de todos. E eles esperam por mim, é por ti que eu espero. Eles querem, eu te quero. Essas ligações não têm comparação com o que eu sinto que é a nossa ligação. E por isso eu espero. Eles querem, eu te quero. Então deixa o fone a tocar, porque no fim tu sabes que é só tu, é só tu. Se ligam dá ocupado, porque quem tá do outro lado é só tu, é só tu. Se ligam dá ocupado, porque quem tá do outro lado é só tu, é só tu, é só tu.
Temstat de Sponton sur Radio Alpha. D'ici 10 minutes, ce sera le moment de l'interview avec Lionel Cecilio. Vous pouvez envoyer déjà vos questions sur le WhatsApp au 06 62 10 90 60. Je répète, 06 62 10 90 60. Vous arrivez à temps pour Panorama Ibero-Americano avec Anna. Alors, dis-nous, qu'avons-nous raté ce mois-ci?
Imaginez un pays où des milliers de jeunes marchent dans la rue, bloquent des routes et affrontent la police pour défendre leur avenir. Ce pays, c'est le Pérou. Et ce mouvement illustre un souffle de changement qui traverse l'Amérique latine. Nous reviendrons sur cette actualité péruvienne plus tard dans la chronique, mais comme toujours dans Panorama Iberoamericano, nous commençons par le monde lusophone pour décrypter les actualités ibéro-américaines et comprendre les enjeux régionaux. Au Brésil, le climat politique et économique reste tendu mais stratégique. Fin septembre, le président Luiz Inácio Lula da Silva a rencontré des représentants américains pour discuter de coopération sécuritaire et commerciale. L'objectif affiché est double. Stabiliser l'économie nationale tout en consolidant le rôle du Brésil comme leader régional. Le pays, avec ses grandes métropoles et ses zones rurales vulnérables, se trouve dans un carrefour entre croissance économique et défis sociaux et rôle diplomatique. La Banque mondiale prévoit une croissance modérée de 2,4% pour 2025, ce qui reflète un ralentissement par rapport aux années précédentes, mais aussi un signe que les investissements publics et privés commencent à porter leurs fruits. L'inflation reste un problème, en particulier pour les produits alimentaires et l'énergie, tandis que les inégalités sociales continuent de structurer la vie quotidienne. Pour y répondre, le gouvernement des programmes d'éducation, d'innovation et de soutien aux jeunes dans les zones urbaines défavorisées, afin de préparer la prochaine génération à participer activement à la société et à l'économie. En traversant l'Atlantique, le Portugal se trouve lui aussi dans une phase cruciale. Le gouvernement portugais prépare son budget 2026 dans un contexte économique délicat. Marqué par une inflation persistante et un pouvoir d'achat sous pression, le prix de l'énergie et des produits de première nécessité ont fortement augmenté, affectant particulièrement les ménages modestes. En parallèle, le pays doit gérer son endettement public, qui reste maîtrisé, mais limite la capacité d'investir massivement dans des programmes sociaux ou des projets d'infrastructure. Le Portugal se concentre donc sur deux priorités : soutenir la consommation domestique et attirer les investissements privés. Nous allons faire un tour du côté de l'Espagne, où Madrid poursuit ses réformes économiques et sociales avec un accent particulier sur les retraites et le tourisme, un secteur crucial pour le pays. Concernant l'actualité de septembre en Équateur, l'actualité est vraiment dominée par la suppression des subventions sur le diesel. Cette décision a provoqué des manifestations massives dans les grandes villes comme Quito et Guayaquil, mais aussi dans les zones rurales, où l'impact du carburant sur les transports et l'agriculture est direct. La police a dû parfois utiliser des gaz lacrymogènes pour contenir les foules et l'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs provinces. Ces mobilisations révèlent un mécontentement profond face aux inégalités sociales et aux décisions gouvernementales perçues comme injustes. Près de 50 000 personnes ont participé aux manifestations lors des premières semaines, ce qui montre l'ampleur du mouvement. Les analystes estiment que ces tensions pourraient servir d'exemple pour d'autres pays latino-américains confrontés à des problématiques similaires. En parallèle, aux États-Unis, se poursuit la célébration de l'Hispanic Heritage Month, qui s'étend du 15 septembre au 15 octobre. Cette période a été créée pour reconnaître et célébrer l'histoire, la culture et les contributions des communautés hispaniques aux États-Unis et dans le monde. Pendant cette période, des expositions, des concerts, des festivals et des conférences sont organisées pour mettre en lumière la richesse culturelle latino-américaine. Mais ce n'est pas seulement une célébration culturelle, c'est un moment d'éducation et de sensibilisation. Les jeunes latino-américains découvrent leur histoire et leur identité, tandis que le grand public prend conscience de l'impact social, économique et politique de ces communautés. Les initiatives artistiques et éducatives permettent de renforcer les liens entre les générations et de créer un sentiment de fierté collective. Hispanic Heritage Month n'est pas qu'une fête, c'est une reconnaissance symbolique et pratique du rôle des communautés hispaniques et latino-américaines dans un monde contemporain. Et puis cette semaine, une nouvelle extraordinaire est venue du nord du continent. La vénézuélienne Maria Corina Machado a reçu le prix Nobel de la paix 2025. C'était hier à Oslo. Le comité Nobel a récompensé son entourage et son engagement pacifique pour la démocratie dans un contexte de répression et d'exil. Depuis des années, Machado incarne l'opposition vénézuélienne face à la dérive autoritaire du régime de Nicolas Maduro. Interdite d'élection, menacée, surveillée, elle a continué à défendre un dialogue national et une transition pacifique. Dans son discours d'acceptation, elle a dédié le prix au peuple vénézuélien qui n'a jamais cessé de croire en la liberté. Ce prix Nobel dépasse la seule figure de Machado. Il symbolise la résilience d'une région entière, où la démocratie reste un combat quotidien. Et justement, parlons du Pérou, où ce combat pour la démocratie et la justice sociale a pris une tournure spectaculaire. Depuis la mi-septembre, des manifestations massives secouent le pays. Tout est parti d'une réforme des retraites, perçue comme injuste et inégalitaire. Très vite, la contestation a pris une ampleur nationale. Étudiants, travailleurs, mouvements indigènes, tous dénoncent un système politique déconnecté et corrompu. Les images de ces foules marchant sur Lima ont fait le tour du monde. Des jeunes, souvent à visage découvert, brandissant des pancartes, disaient « Nous ne voulons plus survivre, nous voulons vivre ». Les universités sont devenues des lieux d'organisation civique, les réseaux sociaux, des plateformes de mobilisation. Mais la crise a atteint son paroxysme hier. Lorsque le Congrès péruvien a voté la destitution de la présidente Dina Boluarte pour incapacité morale permanente. Ce vote historique marque un tournant. En moins de 10 ans, le Pérou a vu défiler 7 présidents. Le président du Parlement, José Reilly, assure désormais l'intérim, promettant de lancer un processus de réforme et de réconciliation nationale. La nuit du 9 octobre restera sans doute gravée dans la mémoire collective des milliers de Péruviens qui se sont rassemblés devant le Congrès, certains en larmes, d'autres chantant l'hymne national. Une page se tourne, mais l'histoire reste ouverte. En l'espace de quelques semaines, l'Amérique latine a donc révélé tous ses visages. Celui de la mobilisation au Pérou, de la révolte en Équateur, de la résilience démocratique au Venezuela, mais aussi celui du dialogue culturel et économique entre l'Europe et le monde lusophone. Le continent vit un moment de transition fait de doutes, de courage et d'espoir. Et c'est précisément ce que Panorama Ibero-Americano continuera de décrypter. La vitalité, la complexité et la force d'une région qui, malgré ses crises, ne cesse de se réinventer.
Merci Anna. Je pense que là, ça doit t'inspirer pour des idées de pièces.
Ouais, m'inspirer, je sais pas, mais en tout cas, ça fait directement écho au spectacle que je porte en ce moment. Moi, je fais un spectacle sur la révolution des œillets, donc tous les soirs, je suis sur scène et tous les soirs, je rends hommage, mais je vis, j'incarne des personnages qui ont fait ce qui se passe à peu près au Pérou là il y a 50 ans, donc hier, et tu t'aperçois que ça existe encore autour de nous, mais ce qui existe, c'est la tristesse de dictature, d'extrême droite, de gouvernement autoritaire qui monte, mais aussi la joie et l'espoir de gens qui sont encore capables de s'unir. Et ça veut dire que ce que je défends sur le plateau, qui est très peu connu, je le vois parce que je rencontre le public et je me rends compte, dans la communauté portugaise c'est mal connu, dans la communauté française c'est pas connu, et ben ça existe encore, c'est possible, c'est faisable, et je pense que des infos comme celle que vient de donner Panorama Iberomicon, c'est hyper important parce que il faut que les gens aient conscience d'abord que ça existe, les régimes autoritaires, à commencer par chez nous d'ailleurs. On regarde toujours très loin comme si chez nous c'était très beau, mais c'est pas fantastique, et ça n'arrive pas du jour au lendemain avec des grandes dents qui rayent le plancher et qui ont du sang au bout des doigts. Ça arrive tout doucement, de manière insidieuse, et j'ai le sentiment que c'est ce qui nous arrive depuis quelques années, et ici en France et un petit peu au Portugal, il faut quand même dire la vérité, notamment avec cette percée d'extrême droite aux dernières législatives qui est quand même un petit peu symbolique parce qu'elle arrive l'année du 50e anniversaire de la révolution des œillets. Donc tu dis bon, même là on n'a pas su quand même passer à côté, mais en même temps se dire qu'on a encore une conscience, quoi. Il y a encore une jeunesse, il y a encore des étudiants qui sont debout, et notamment dans un continent aussi chargé d'histoire que le continent sud-américain. Donc non, c'est porteur d'espoir, inspirant, je sais pas, mais en tout cas ça m'anime, quoi. Voilà.
Et bon, on va en parler de toute façon d'ici 5 minutes. On va parler de ton spectacle et de ce que tu fais sur scène. Mais avant cela, je vous propose d'écouter la dernière musique de Gustavo Lima et Luis Fonsi. C'est Vagabond.
Oui, bachador. Una vez más. Dizem que todo homem é vagabundo. Pergunta se já me viram no cabaré. Pergunta se eu frequento a vida noturna. Ela vai dizer que eu sou o sonho de toda mulher. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou, eu não sou. Se existe alguém fiel nesse mundo, esse é o cabaret. Pregunta si yo frecuento la vida nocturna. ¿Qué te va a decir que yo soy el sueño de toda mujer?
Esto es Gustavo Lima con Luis Fonsi. Oye.
Stade de Chponton sur Radio Alpha, vous arrivez à temps pour l'interview avec Lionel Cecilio. Donc Lionel, tu es acteur et comédien, tu as déjà eu plusieurs rôles sur le grand écran, sur le petit écran et au au théâtre. Tu te représentes actuellement pour ton spectacle Seul sur scène, La Fleur au Fusil, au théâtre de La Huchette, dans le 5e. C'est les mardis, jeudi, vendredi et samedi à 21h jusqu'au 18 novembre. Et c'est mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. C'est bon, j'ai raté aucune info?
Tout est là.
Parfait. Et donc, tu le joues depuis longtemps. T'as été t'as été un peu partout. T'étais à Paris déjà l'année dernière. On s'est vu là-bas. Quels sont les retours globalement du public?
Les retours du public, ils sont extrêmement touchants et intéressants. C'est que les gens, dans une très large majorité, connaissaient pas cette histoire. Et donc, il y a vraiment le sentiment de découvrir quelque chose et de découvrir quelque chose qui les touche. Après, il y a une grande, grande émotion. Et puis après, ça les remplit d'espoir, quoi. J'ai vraiment de tout. J'ai des Portugais, de deuxième et troisième génération qui viennent en se disant, mais incroyable, je savais qu'il y avait une révolution vaguement, mais je connaissais pas cette histoire, faut absolument que j'en parle avec mes parents, mes grands-parents. J'ai des Portugais de première génération, entre 70, 80 ans, 60, entre 60 et 80 ans qui viennent en disant, mais moi j'ai vécu ça, j'y étais, ou ma sœur y était, ou mon oncle est parti en Angola, ou ma cousine a disparu embarquée par Lapide, et qui me tombe dans les bras en larmes et tout ça. Mais j'ai aussi énormément, et dans des proportions bien plus importantes que ce que je pensais, de Français, qui viennent découvrir cette histoire, comme on va découvrir peut-être dans 10-15 ans l'histoire du Pérou dont tu parlais dans ta chronique tout à l'heure, comme on découvrait il y a quelques années dans certains spectacles l'histoire de l'Iran. Je pense à 4211 km qui avait eu pas mal de prix et qui était un spectacle vraiment très très beau et qui se reprend d'ailleurs prochainement, et qui viennent découvrir une histoire qu'ils connaissent pas. Et souvent ces gens-là ont une donc quand je dis ces gens-là, je parle des Français qui n'ont pas de lien direct avec le Portugal. Souvent ils ont une empathie particulière du fait que c'est un pays qu'ils connaissent, c'est-à-dire que l'Iran, ça paraît loin, ça paraît différent culturellement. Le Portugal, c'est un pays où on va en vacances, on a beaucoup d'amis portugais ici en France, on a un lien, ça nous parle. Mmh. Et donc du coup, tout d'un coup, il y a une empathie forte de dire waouh, j'avais le sentiment de connaître et le Portugal et les Portugais, je connaissais que dalle et j'ai découvert un truc. Et puis évidemment, une forte forte émotion et beaucoup d'espoir. L'autre jour, j'avais deux jeunes femmes, je sais pas, une petite 20-25 ans, pas du tout d'origine portugaise, qui connaissaient rien, qui étaient très émues. Elles m'attendent à la sortie, elles achètent le livre du spectacle, on discute et elles me disent ah, ça nous a donné plein d'espoir, nous dans deux jours on est à la manif à République, on est blindés d'espoir. Et le lendemain, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, elles m'ont envoyé une photo en MP où elles sont le poing en l'air à la manif et elles pensaient au spectacle. Et voilà, je pense qu'il y a un truc avec cette histoire au-delà du spectacle, c'est pas tant ce que je fais moi, parce que je fais que retransmettre, quoi, je suis le témoin de quelque chose, mais avec cette histoire, il y a quelque chose qui reste chez les gens. Ils en parlent après longtemps, ils communiquent, ils échangent avec leurs proches, avec leurs parents, et c'est ça qui reste, quoi, un truc de transmission, d'émotion et de découverte.
Et pourquoi l'avoir appelé La Fleur au Fusil? Parce que La Fleur au Fusil, on pense beaucoup à la Première Guerre mondiale, on pense pas du tout, ouais, au Portugal. C'est un titre qui est beaucoup plus large que le Portugal.
Exactement. En fait, d'abord, c'est une expression française, pas du tout portugaise. C'est une expression qui est directement liée, pour ceux qui la connaissent, mais ça se perd un petit peu, ce lien à la Première Guerre mondiale. Mais ça se perd un petit peu, elle est rentrée dans le langage courant. Et La Fleur au Fusil, grosso modo, ça veut dire t'es parti sans avoir trop préparé ton truc. Donc on peut très bien dire t'es parti passer ton bac, La Fleur au Fusil, t'as pas trop révisé. Ça s'est un petit peu détaché, si tu veux, de cette connexion avec la Première Guerre mondiale. Mais effectivement. Mais moi, initialement, j'avais pensé à beaucoup d'autres titres, dont notamment des titres qui restent encore sur certaines archives de mes écrits, parce que j'ai des V1, V2, V3, V4, V6 du texte. Et mon metteur en scène, Jean-Philippe Daguerre, était pas hyper fan des titres auxquels j'avais pensé. Et donc on réfléchissait ensemble à un titre qui pouvait à la fois être évocateur de quelque chose, tout raconter. Et un jour, on a eu une révélation, c'est-à-dire que la fleur, l'œillet dans le canon du fusil, notamment cette image de cet enfant qui est en train de glisser la fleur, qui est une image totalement faite en studio, quoi. Je veux dire, c'est pas une photo sur place du moment, mais en tout cas, cette image-là, elle habite ceux qui connaissent cette histoire. Ceux qui la connaissent pas, La Fleur au Fusil, il faut savoir que les jeunes capitaines d'Avril, comme on les surnomme, ces militaires, ils sont un petit peu partis. Alors, tout a été préparé, évidemment, mais ils sont un petit peu partis sans savoir ce que ça allait donner. Et d'ailleurs, le mot d'ordre, c'était, si on se fait fusiller et que ça rate, au moins, on restera droit et on pourra se regarder dans une glace. Mais, ce que tu veux, c'était pas politiquement préparé, c'était pas politiquement projeté. Donc, il y avait ce côté de La Fleur au Fusil, genre, on y va et on verra bien ce qui se passe après. Donc ça faisait déjà deux endroits où ça cochait les cases. Et puis après, il y avait l'idée de se dire aussi, c'était intéressant pour nous d'avoir dans le titre, et l'expression nous permettait de le faire, d'avoir les deux grands endroits de cette révolution. On a d'un côté l'espoir de ces gens qui veulent rester pacifiques avec la fleur et ce qu'elle représente, et donc l'œillet. Et de l'autre côté, les fusils de ceux qui veulent continuer à faire la guerre en Afrique subsaharienne, au Mozambique, en Angola, et qui veulent continuer, quitte à appauvrir le pays et à priver les gens de leur liberté, à s'acharner dans ces guerres de colonies. Et du coup, dans le même titre, on a ces deux pendants-là. On a une expression qui est rentrée dans le langage courant, qui va parler à tout le monde, et on a l'imagerie, pour ceux qui la connaissent, de cet œillet dans les canons, et on s'est dit que c'était parfait. Et c'est une idée de Jean-Philippe, qui un jour a eu cette révélation pendant une répète, et je lui ai dit bah banco, on fait ça, quoi.
Et on retrouve beaucoup d'éléments aujourd'hui de ta pièce. On a par exemple la radio, des jeunes entre deux cultures, avec des rêves et des espoirs. Et je vais te demander, pourquoi parler du coup de la révolution des œillets ?
Alors, pourquoi en parler ? D'abord parce que c'est une histoire qui m'a touché et que si je décide d'écrire, que ce soit pour la scène ou pas, il faut d'abord que le sujet m'ait touché, m'ait ému, que ça m'ait bouleversé. Et en fait, moi, quand je monte sur le plateau, c'est assez drôle d'ailleurs parce que pour le coup, c'est une mise en abîme de ce que je fais dans ce spectacle. Dans ce spectacle, c'est une grand-mère qui raconte à son petit-fils. Donc la première des choses, c'est une transmission. Et moi, quand je monte sur le plateau, je suis dans la transmission. En gros, pour moi, je fais pas vraiment de différence entre raconter quelque chose à un dîner, lire une histoire à mes gamins pour les endormir, et monter sur un plateau. Mon idée, c'est un truc qui m'a bouleversé et que je raconte. Et je suis souvent passionné et souvent survolté quand je raconte les choses, parce que quand je raconte un truc, c'est que ça vaut le coup d'être raconté. Donc souvent, il y a un truc genre, mais tu savais que les gars, et après, ils ont fait ça, hein? Et donc, bah, au lieu d'aller à 18 dîners et dire, mais tu te rends compte que, yeah, bah, je le structure dans un spectacle, je monte sur scène et je le raconte à plein de gens en même temps d'un coup. Donc, pourquoi l'avoir raconté? Bah, pour ça, parce que je pense qu'il faut que cette histoire, elle soit transmise, il faut qu'elle vive. J'ai tendance, quand je signe les dédicaces sur le bouquin à la fin, à mettre une dédicace un petit peu générique que je mets un petit peu à tout le monde, où je dis pour que leur histoire vive après nous. Et je pense que c'est vraiment ça. Je pense que ce texte qui existe dans le bouquin et cette pièce qui existe dans sa temporalité théâtrale sur le plateau, elle n'a qu'un seul but, c'est que cette histoire, elle vive après eux, et qu'elle vive même après nous, bien au-delà, pour deux raisons. D'abord pour leur rendre hommage, et la deuxième pour que nous on se rappelle que c'est possible, qu'on soit chargé d'espoir. Et comme je disais tout à l'heure quand je parlais du Pérou, ou même de ce prix Nobel de la paix au Venezuela, qu'on sache que c'est encore possible d'être des humains, malgré ce qu'ils essaient de nous faire croire, malgré ce que certains dirigeants, Trump en tête de ces gens-là, essaient de nous faire croire. On peut encore être doux, humaniste, utopique, poétique, et tourné vers une certaine idée de la paix, du partage et du vivre ensemble, qui est encore quelque chose de réel, quoi. C'est pas un truc de doux rêveur de 20 ans. C'est vrai, c'est là et c'est possible, y compris quand on est du côté des militaires, comme l'étaient les jeunes capitaines d'Avril.
Et tu parlais de la transmission tout à l'heure. Est-ce que certaines personnes découvrent l'histoire de la Révolution grâce à ta pièce ?
Carrément, énormément. Énormément. D'abord des jeunes, mais même des plus âgés, beaucoup, beaucoup. Et certains qui la connaissaient découvrent des détails de cette histoire. J'en tire aucune gloire. Simplement, je me dis, waouh, pourquoi c'est si méconnu? Pourquoi on en parle si peu? Pourquoi est-ce qu'on l'apprend pas dans les cours d'histoire? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus, même si on l'effleurait? Pourquoi est-ce qu'on connaît à ce point Mussolini et Franco, et que Salazar, il y a encore une énorme majorité de gens qui pensent que c'est le nom de la gare Saint-Lazare, et qui sont incapables de le prononcer? Et ça m'émeut beaucoup, parce que je me dis, en fait, au-delà de l'hommage qu'on leur rend pas à ces gens qui ont fait un truc extraordinaire, il y a aussi la hiérarchie des importances de qui raconte l'histoire et comment il la raconte. Et une fois que t'as ouvert la boîte de Pandore de qui raconte l'histoire et comment on la raconte, bah tu te remets toi en question sur comment tu racontes les histoires, mais surtout tu commences à remettre en question ce qu'on t'a appris, et t'as envie d'aller refouiller, et tu dis attends, et si j'allais relire l'esclavage à la lumière d'une nouvelle, tu vois, d'un nouvel éclairage et d'une nouvelle lucidité, d'une nouvelle conscience. Et je dis ce thème-là, mais beaucoup d'autres thèmes. Et tout d'un coup, tu te dis, bah, les histoires, elles sont racontées par qui veut bien les raconter. Et en fonction de l'endroit où t'es dans le monde, sur le globe, tu vois. Donc, y a ça aussi. Donc oui, il y a énormément de personnes qui la découvrent ou qui en découvrent certains détails, en tout cas, mais beaucoup de gens qui la découvrent totalement, quoi, totalement.
Et pourquoi avoir choisi de faire un seul sur scène ?
C'est drôle parce que hier j'étais en tournée, et souvent en tournée ça s'est fait hier, on a fait ce qu'on appelle un bord plateau, c'est-à-dire que les gens qui doivent ou veulent partir partent, mais d'autres restent dans la salle, et moi je reviens, je vais me doucher, je me change et je reviens sur le plateau, et on a un échange avec des questions, on passe un micro dans le public, voilà. Souvent les gens connaissent ce genre d'événement dans les avant-premières de cinéma, mais ça c'est moins connu du grand public pour le théâtre, mais voilà. Donc on a fait un bord plateau et quelqu'un m'a posé cette question. Il m'a dit c'est drôle parce que pendant une heure et quart vous nous expliquez que le seul intérêt de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement collectif, c'est qu'ils ont été tous ensemble et que ça n'a marché que parce qu'ils étaient tous ensemble. C'est d'ailleurs des phrases de mon spectacle, là il le dit, si on est tous ensemble ça marchera, et vous le faites tout seul. Et j'ai répondu, ce que je vais te répondre là, c'est que d'abord, et d'ailleurs c'est drôle, ça va faire une fin de réponse à la réponse à la question de Liliana juste avant, j'ai eu envie de raconter ce spectacle parce que je la connaissais pas l'histoire. Donc quand elle me dit est-ce que des gens la découvrent, bah moi le premier. Et quand je l'ai découverte, j'ai appelé ma grand-mère et je lui ai dit pourquoi tu m'as jamais raconté, et elle m'a répondu pourquoi tu ne m'as jamais demandé. Et je me suis dit, il est là le vrai sujet. C'est un sujet de transmission. Pourquoi est-ce qu'on demande? Pourquoi est-ce qu'on raconte? Et quand j'ai eu envie de raconter cette histoire, je l'ai racontée d'abord par le prisme d'une transmission. Donc, j'y ai mis beaucoup de moi, de ma grand-mère et de l'histoire familiale dedans, même si c'est la révolution des œillets qui prime et que tout ce que vous entendez est vrai. Mais j'ai écrit par cet axe-là. Et à partir du moment où je l'ai fait par cet axe-là, bah, il y avait une part de moi qui était un peu égoïste. C'est une part d'intimité que j'ai envie de raconter tout seul. Il y a aussi une part de défi parce que c'est un exercice particulier que j'affectionne particulièrement. C'est mon 4e seul en scène et j'adore jouer à plusieurs sur un plateau, mais j'aime aussi énormément être seul sur le plateau avec ce contact direct avec le public qui est très intense, qui voilà. Et puis après, la dernière chose, c'est que je me suis dit, pour faire une révolution comme ils l'ont faite en 74, le 25 avril, il faut être si nombreux que quoi que je fasse, on sera jamais assez sur scène. Alors autant que je sois tout seul. Et du coup, bah, je me suis gardé tous mes personnages pour moi, et puis il y a une part de plaisir personnel aussi à aller les explorer, quoi.
Et c'est très impressionnant à voir par ailleurs. Je crois qu'on a eu un message d'une auditrice.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a Elisabeth Douce-Sainte qui se retrouve parfaitement dans ta pièce, parce qu'elle dit que sa mère, ses frères et ses sœurs au Portugal ont vécu la révolution des œillets au temps de Salazar. Donc, c'est que finalement, tu es seule sur scène, mais pas totalement.
D'ailleurs, c'est drôle quand tu dis avec ce retour d'auditrice, t'es seul sur scène, mais pas totalement. Il y a beaucoup de gens qui disent, et c'est un joli compliment, qui me disent, on annonce ça comme un seul en scène, mais comme tu joues beaucoup de personnages, finalement, t'es pas tout seul. Mais ça, c'est quelque chose qui me touche. Mais il y a aussi quelque chose, c'est que je crois que je suis pas seul parce que je suis avec les âmes de tous ces gens-là. Il y a une mythologie autour de l'applaudissement au théâtre. Alors, certains disent que c'est vrai, que c'est pas vrai, puis surtout on s'en fout un peu. Moi, j'aime y croire. Il y a une mythologie autour de l'applaudissement du théâtre qui dit que dans la Grèce antique, quand les premiers spectacles commencent et qu'on commence à faire ce qui va être bientôt le théâtre, on imagine que les acteurs de cette Grèce antique, de ces spectacles-là, sont habités par les âmes des défunts pendant toute la représentation et que les applaudissements du public, c'est un clap-clap qui permet de raccompagner les âmes vers le monde des défunts et de libérer les acteurs de cette transe et de cette, tu vois, de cette possession d'âme. Et ben, j'aime y croire. Et je me dis que ben, si c'est ça, je remercie le public chaque soir d'applaudir si bien et de si bien accompagner ces âmes. Mais surtout, je remercie ces âmes de si bien m'habiter pendant cette heure et quart parce que c'est elles qui viennent raconter leur histoire à travers moi. Moi, je suis un poste de radio. Moi, je suis un transistor finalement.
Et ben, comme nous, du coup. Merci beaucoup Lionel, on continue d'ici 5 minutes cette course, on a encore plein de questions à te poser sur cette pièce et sur ta carrière et ton métier, mais avant cela t'as choisi une musique de Zeca Afonso, c'est A Full Mega No Carreiro, on s'écoute ça tout de suite.
Boliu abriu as gâmbias, boliu abriu as gâmbias para trepar as varandas, para trepar as varandas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, mudem de rumo, já lá vem outro carteiro. Mudem de rumo, mudem de rumo, já lá vem outro carteiro. A formiga no carreiro andava à roda da vida. Caiu em cima, espinhela caída. Caiu em cima, de uma espinhela caída. Furou, furou a brava, furou, furou a brava. Numa cova que ali estava, numa cova que ali estava.
Vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Tempestade de Sponton. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Et nous sommes toujours en interview avec l'acteur et comédien Lionel Cecilio.
Nous avons donc parlé de ton spectacle La Fleur au Fusil. Comment tu as fonctionné pour réaliser tes recherches et combien de temps de préparation ça t'a mis?
Alors, les recherches, ça a été le plus long. Parce que c'était des recherches sans même savoir si j'allais écrire. C'était des recherches de curieux qui petit à petit au fur et à mesure devenaient des recherches pour écrire. Mais je veux dire, au début c'était vraiment une espèce de fouille archéologique. J'avais l'impression d'avoir ouvert une boîte dans le grenier de mes grands-parents et tout d'un coup d'en ouvrir une deuxième, une troisième, et c'était des poupées russes et j'avais envie de chercher encore plus. Et donc là, il y a à peu près 3 ans d'intérêt pour ça, où j'ouvre tout ce qui passe, tout ce qui peut avoir un lien direct ou indirect avec et la révolution des œillets et les révolutions en général et l'histoire géopolitique du monde, parce que tout d'un coup je me dis mais à quoi ça fait écho, est-ce que c'est la seule, est-ce que c'est comment, et puis la transmission, les grands-parents, le machin. Donc je cherche, je fouille, je regarde et tout, et ça c'est à peu près 3 ans, c'est très long. Et puis tout d'un coup je me dis ça serait quand même pas mal de raconter cette histoire, j'ai rien d'écrit. Et j'ai des idées de spectacle, mais c'est que des idées, j'ai des ossatures en tête et j'ai 3 idées de spectacle qui me viennent. On est on est en 2021-22 et j'appelle mon metteur en scène et je lui dis voilà, j'ai eu des idées de spectacle, certaines ont germé pendant le Covid, d'autres un peu après et tout, je te les raconte. Et je lui pitch les 3 idées et puis il me dit écoute, j'aimerais bien lire La Révolution des œillets, parce que comme c'est 74, il va y avoir un 50e anniversaire là, si la pièce me plaît, on risque d'être dans les temps de l'hommage et ça serait quand même formidable quoi. Et je lui dis bon, très bien. Sauf que moi, à ce moment-là, j'ai rien écrit. Et donc, pendant 3 semaines, je vais le faire poireauter en lui disant, mais regarde tes spams, écoute, je comprends pas, franchement. Et en fait, pendant ce temps-là, j'écris jour et nuit. Donc, en fait, il n'y a pas d'exploit à avoir écrit en 3 semaines parce que, comment dirais-je, en fait, ça faisait 3 mois que ça germait en moi. Donc, en fait, j'ai mis en forme, j'ai laissé échapper, et puis, c'est presque la partie presque amusante où tout d'un coup, tout ce qui avait germé en moi, tout ce qui avait pris forme en moi, même de manière presque inconsciente, ressortait. Et puis, j'écris beaucoup comme ça aussi. Je me dis, j'écris pas tout de suite, je laisse dans ma tête les idées qui survivent, c'est les meilleures. Et donc, pendant ces 3 semaines, j'écris comme un fou. Et là, quand il a lu, il m'a dit, OK, on fonce. Et après, on s'est mis à travailler, donc, une première partie de travail sur les coupes de texte, où ça a pris quelques jours, et puis après, pendant quelques semaines, au travail au plateau. Je pense que le travail avec mon metteur en scène, c'est à peu près 2 mois, je pense. Et les 3 semaines d'écriture, je pense que la naissance de la pièce, elle se fait en 3 mois, quoi, quelque chose comme ça. Mais avant ça, il y a 3 ans d'intérêt pour le sujet qui sont presque obsessionnels. Donc oui, je saurais pas dire à quel moment ça prend forme ou pas, mais le travail vraiment effectif d'écrire et de mettre en scène, ouais, trois petits mois, quoi, quelque chose comme ça.
Et t'es allé passer quelques temps avec ta grand-mère au Portugal.
C'est ça, ouais, quand je disais tout à l'heure que je l'ai appelée, en fait, et que je lui ai dit, pourquoi tu m'as pas raconté, qu'elle m'a dit pourquoi tu m'as pas demandé, je lui ai dit, écoute, j'arrive. Donc j'ai pris un billet d'avion, je suis parti là-bas, j'ai passé 4 jours avec elle dans, un temps qui était un temps à nous, quoi, qui était pas un temps de famille où tu fais des baptêmes, des anniversaires, où toute la famille te tourne. On était vraiment juste tous les deux. On a vécu à son rythme, un rythme de retraité que j'adore. Franchement, ça me va très très bien. Manger du poisson grillé, me lever sans réveil et vivre au Portugal, je suis prêt, je suis complètement prêt. On a raconté nos vies, quoi, surtout elle. Et elle m'a parlé de tout, de rien, quoi. Et tout était bon à prendre. Elle m'a parlé évidemment du Portugal de cette époque, mais elle m'a parlé aussi de notre famille. Elle m'a parlé de qui elle a été avant. Et ça m'intéressait beaucoup. J'en parle dans le spectacle. Moi, ça m'intéressait. Ma grand-mère s'appelle Céleste, et ça m'intéressait de découvrir Céleste alors que j'avais le sentiment d'avoir connu Mémé toute ma vie, quoi. Et je me dis, ah, d'accord. Donc avant la batte, avant avant les cheveux blancs, avant l'arthrose, avant tout ça, il y a eu une jeune femme, quoi, une adolescente, une enfant, des rêves, des espoirs, et on l'oublie, ça. Je sais pas si vous vous y pensez, mais moi, quand je croise un daron, une daronne, une grand-mère, un grand-père, je me dis pas, ah ouais, mais lui, à un moment donné, il a eu des couches, il a joué à la marelle et il a eu des amoureuses. Tu vois ce que je veux dire? Jamais je me dis ça. Et pourtant, tous les gars que vous croisez de 75, 80, 85 piges, ils ont eu des couches, ils ont joué à la marelle, ils ont eu des mauvaises notes à l'école, ils ont eu des copains qui les ont trahis, ils ont eu des amoureuses, ils ont eu des déceptions amoureuses et puis tout d'un coup des grands espoirs. Et moi, je me dis, c'est quand même fou, non? Tu vois, de prendre le temps de projeter ça. Donc ça m'intéressait beaucoup, ouais.
Et tu as retranscrit et adapté, je dirais, ta pièce en livre. D'ailleurs, tu le dis à la fin de ton spectacle, mais est-ce que tu pourrais nous préciser s'il y a une différence entre le livre et ta pièce, et si oui, laquelle ?
Alors en fait, c'est un peu dans l'autre sens. J'ai pas adapté la pièce en livre. En fait, ce qui se passe, c'est que très très souvent au théâtre, de plus en plus souvent, les gens impriment quand le texte en vaut la peine, hein, tu vois, et que les gens s'intéressent, ils impriment le texte du spectacle tel quel. Voilà, ce que j'ai joué, c'est imprimé, voilà. Et donc, moi, j'ai écrit un spectacle qui avait destination à être un spectacle. J'ai pas d'abord écrit un roman et après j'ai adapté, ou l'inverse. J'ai écrit un spectacle qui avait vocation à être un spectacle. Mais comme j'étais passionné par tout ce que je découvrais, j'ai beaucoup beaucoup mis dans ce texte. Et évidemment, tu peux faire un spectacle de 8 heures, hein, ça existe, hein. Il y a même des spectacles qui durent beaucoup plus longtemps. Et je suis sûr que Thiago Rodriguez, dans le Inn d'Avignon, il fait des spectacles que moi j'ai pas vu, qui doivent durer 14 heures. Moi j'ai déjà vu des spectacles de Mouchkine qui durent 12 heures, et en spectateur, et ça se fait, ça existe. Mais là, C'était pas l'objet. On voulait quelque chose de très incarné et surtout, comme on était dans la transmission, on voulait quelque chose de très moderne. Moi, mon intérêt, c'est d'aller parler aux jeunes aussi et surtout. Et donc, du coup, il faut quelque chose qui fonctionne avec notre époque. Et dans notre époque, eh ben, qu'on le veuille ou non, ça va vite, c'est ramassé, c'est condensé et c'est incarné et c'est vivant, quoi. Et donc, du coup, quand je me suis mis à écrire, ce spectacle, on s'est dit, bah, tu peux pas, là, t'en as trop et donc il faut couper. Et j'étais pas capable de couper, il y avait trop de choses et tout. Et donc, à un moment donné, on a d'abord coupé beaucoup, hein, mais à un moment donné, on s'est dit, là, je peux plus couper. Et on s'est dit, bah, alors, coupe pour le texte incarné sur la scène, mais ne coupe pas pour le texte imprimé. Et donc, on a imprimé le texte, comme ça se fait beaucoup au théâtre, mais c'est une version augmentée en ce sens que j'ai pas tout coupé dedans. Donc, quand vous allez lire le spectacle, le texte, vous allez y découvrir des trucs qui sont pas du tout dans le spectacle. Je vais donner un exemple. Les gens qui n'ont pas vu le spectacle, je ne spoil rien. Si vous écoutez chez vous, c'est vraiment pas grave. Mais la fin du spectacle, toi tu l'as vu, Liliana, vous l'avez tous vu, tu l'as vu aussi, Eugénie. Oui. Elle se termine par la chanson Grandula Villa Morena. Et la grand-mère ne parle pas, elle part. Mais en réalité, dans le texte écrit, la grand-mère parle. Elle a un long discours où elle raconte avant de partir comment elle a vécu la chose, et elle finit en disant nous nous sommes unis pour mener le combat. Vous, le combat qu'il vous faut mener, c'est de vous unir. Et cette phrase clôture le texte, et elle n'existe pas sur scène. Donc vous allez lire le texte chez vous, et vous allez dire, bah, il n'a jamais dit ça. Et c'est valable pour tout le texte, quoi. Toutes les scènes sont toutes plus longues, plus délayées. Tout ce que j'ai pas pu mettre sur le plateau, je l'ai laissé dans le livre.
Et est-ce que tu prépares un prochain spectacle ?
J'ai commencé à écrire récemment. Wow. Mais c'est trop tôt pour dire que je prépare un prochain spectacle, mais j'ai commencé à écrire récemment. Et ouais, j'ai une idée qui m'a... J'ai une idée qui m'a percuté. Je me suis dit, ah ça, j'ai envie de le raconter. Et c'est très frustrant parce que t'as envie de le raconter parce que je suis quelqu'un d'enthousiaste et tout. Mais si tu commences à le raconter, tu risques de te priver d'une espèce d'effet de surprise si jamais t'arrives avec l'objet soit écrit, soit joué, théâtral ou livre ou je sais pas ce que je vais en faire encore. Mais en tout cas, j'ai envie de le raconter. Et d'un autre côté, si tu le racontes autour de toi, tu peux voir dans l'œil de tes interlocuteurs si tu t'es trompé ou pas, si ça intéresse que toi ou si ça intéresse les gens. Donc je suis dans cet entre-deux où parfois, en sous-marin, sans rien dire, je dis « Tu savais que... » Et moi, je sais très bien que ce sujet, il m'habite profondément et que je suis en train de commencer à écrire dessus. Mais je le fais en sous-marin et je vois la réaction des gens. Et du coup, je dis pas sur quel thème j'écris, mais en ce moment, je suis un peu habité par un nouveau sujet où je me dis « Mais ça, c'est dingo, ça, il faut le raconter quand même. »
On a hâte en tout cas de voir ce que ça va être. On va s'écouter un petit passage de Street Life de The Crusaders que tu as choisi aussi. Mais avant ça, je voulais vous dire que donc il y a une nouvelle date qui a été ajoutée cette semaine, jeudi.
Jeudi 16 octobre, c'était une date qui n'était pas ouverte au calendrier, elle n'était pas ouverte à la vente et on l'a ouverte hier.
Et on va organiser un concours sur nos réseaux sociaux, je pense, dès demain, pour que vous ayez vos places au plus vite pour ceux qui souhaitent y aller. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir cette pièce qui est formidable. On s'écoute ça tout de suite. Music in the night, always bright.
Because there's no
Bah dis donc, des très bons goûts musicaux, Lionel.
J'adore cette chanson, c'est la... Alors je l'adore, j'écoute tout le temps, mais c'est la chanson que je me mets dans les oreilles quand je traverse Paris à pied à minuit, 1h du matin en rentrant du théâtre, le soir, quand ça s'est bien passé et que j'ai besoin de me... Et souvent, j'ai mes écouteurs et je chante à voix haute. Il est 1h du mat et je me dis, les gens qui me croient, ça peut être assez violent, je pense.
J'avoue que moi, tu me ferais peur, je changerais de trottoir.
Mais moi, je te revendrai et je chanterai avec toi.
Mais je vois très bien le mood, ça doit être hyper bien. Et on en écoutera encore une troisième juste après l'interview que tu as choisi aussi. Mais donc, on a compris que tu étais comédien. Tu es dans le monde du théâtre, comme on dit. Tu écris aussi. Mais tu es aussi acteur, donc tu as par exemple joué en cinéma, mais aussi en télé. On peut citer dans le cinéma Coupé de Michel Hazanavicius, Monsieur Aznavour de Grand Corps Malade et Médiridir, ou encore Divertimento de Marie Castille, mention Char. Mais aussi à la télé, donc Les Capones attendent un bébé, qui a été diffusé là en 2025 sur M6, ainsi Grand Soleil, donc en 2022, Master Crime, Afropolitaine, bref. Il y a beaucoup de choses à citer dans ton travail d'acteur. Comment est-ce qu'on passe des planches du théâtre au grand ou petit écran ?
Moi, perso, je pense qu'il n'y a pas une énorme différence. Je pense que c'est peut-être plus facile d'aller capter quelque chose pour la caméra, parce que la caméra fait tout le travail. Elle crée le gros plan, elle crée le plan large, il y a un monteur, il y a une musique, il y a un rythme. Par exemple, si toi, en tant qu'acteur, ton rythme est pas dingo, le monteur va te sauver. Et donc, il y a un vrai travail de groupe. Donc, t'es une pièce d'un puzzle, et c'est presque plus simple d'être une pièce d'un puzzle. Encore faut-il que la pièce s'enclenche bien dans les autres pièces, et donc, il faut que tu fasses ton taf correctement. Et surtout, beaucoup, très souvent, au théâtre, il y a moins, il y en a, et d'ailleurs, j'adore ça, mais il y a moins de composition, et la caméra vient essayer de capter une part de ce que t'es. Donc, finalement, c'est presque plus simple. Au théâtre, ça appelle à plus de technique. Les bons acteurs de cinéma ne sont pas de fait forcément des bons acteurs de théâtre. L'inverse est probablement plus facile à faire. Sauf quand des acteurs d'une très vieille génération se perdent un peu, qui projettent la voix trop loin et tout. Mais ça n'existe plus. Ça, les acteurs qui jouent en criant parce qu'ils se trompent. Tu sais très bien si t'es dans une salle de 50, une salle de 1000 ou devant une caméra avec un micro-cravate. On est en 2025. Ça n'existe plus. Mais c'était un mythe hein, pendant très longtemps. Mais en tout cas, le passage de l'un à l'autre, il est pas si délicat ou si difficile que ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est pas tant le passage de l'un à l'autre, c'est que pour moi, c'est presque deux façons totalement différentes d'aborder le métier. Je fais aussi beaucoup de doublage, des voix de dessins animés, donc c'est même trois façons différentes d'aborder le métier. Et chacune de ces façons vient faire appel à différentes cordes de ton instrument. Et ça, c'est très intéressant. C'est comme un mec qui serait guitariste, mais tu joues pas de la guitare portugaise pour un fado, pareil que tu joues de la guitare électrique pour un rock, que tu joues de la guitare classique pour un folk. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et ben, c'est un peu pareil. T'as les trois trucs comme ça et tu vas jouer différemment, mais ton solfège est le même et les émotions que tu vas transmettre sont les mêmes, mais toi tu vas jouer différemment. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que du coup, ça te permet toi d'aller chercher ailleurs en toi et de générer autre chose, et ça, c'est vraiment chouette.
Est-ce que tu vois une différence entre télé et cinéma, ou c'est à peu près pareil, la façon de tourner, de réaliser ?
Ça dépend ce que tu tournes, mais en vrai, très très souvent, la plupart du temps, à la télé, il y a beaucoup moins de moyens, et donc forcément, tu tournes avec une exigence de rapidité, d'efficacité qui est différente. Tu vois, par exemple, Les Capones attendent un bébé, si tu mets ça au regard de Monsieur Aznavour, en termes de budget, c'est un grand écart Nadia Comaneci. C'est-à-dire que j'ai un pied au Portugal et l'autre à Paris, et vraiment j'ai très très mal aux adducteurs. disons que dans Les Capones attendent un bébé, t'as intérêt à être très efficace. C'est presque comme moi quand j'ai démarré, ça fait très vieux de dire ça, mais j'en suis presque un peu fier, donc je le dis quand même. Quand j'ai démarré, mon tout premier film, c'était un court métrage en pellicule. La pellicule, ça n'existe plus du tout, mais la pellicule, ça coûtait très 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 cher. Donc on faisait beaucoup beaucoup de répètes, très peu de prises, parce que et à un moment donné, tu peux pas en refaire autant que tu veux, et donc ça te demandait d'être très efficace. Et quand je tourne à la télé, j'ai les réminiscences de ces tournages-là. J'en ai fait deux en pellicule. Et je me dis, là, c'est pareil. Faut être très efficace parce qu'en fait, ça a beau être du numérique. La journée de tournage coûte cher. Ils ont pas une thune et ça va très, très vite. Mmh. Et ça, ouais. Pareil pour les quotidiennes, tu vois. Ainsi Grand Soleil. Alors là, c'est encore différent. Ils tournent à cinq caméras. Donc, ils peuvent te sauver, tu vois. Moi, je me souviens qu'Ainsi Grand Soleil, ils ont des techniques, de post-production qui sont très, très élaborées. Et donc, du coup, ils sont capables de sauver littéralement des trucs qui sont mal placés sur le plateau, mais dingo, quoi. Et sur Divertimento que tu as cité, au montage, c'est un exemple que je te donne pour te dire que c'est un travail d'équipe et que tu arrives après, mais que tout est sauvable. En théâtre, une fois que tu as donné ton truc, hein. C'est du one shot, c'est sans filet, c'est un date. Moi, tous les soirs quand je vais au théâtre, je me dis, c'est Tinder. Je sais pas qui va être en face. Je sais pas qui va être en face. Il va falloir les séduire. Peut-être même que eux vont pas me séduire de fou non plus, tu vois. Donc il va falloir et on va être ensemble, tu vois. Tu fais rarement l'amour tout seul, tu vois. T'es deux quoi. Donc il y a le public d'un côté, l'acteur de l'autre, et, ou les acteurs quand on est plusieurs, et on va créer une alchimie. On va créer un moment. Et ce moment, il appartient qu'à nous. Demain soir, ça sera un autre rendez-vous Tinder. Vous allez rentrer chez vous. Si vous avez kiffé, vous allez peut-être avoir envie qu'on se revoie. Et il y a des gens qui reviennent plusieurs fois. Hier, à Marly-le-Roi, il y avait une jeune fille qui l'avait vue pour la cinquième fois. Et ça me touche beaucoup. La fleur au fusil. D'autant plus que je l'ai joué 50 fois. Donc 5 fois sur 50, je me dis,
pas mal.
Pas mal, tu vois. Mais, donc si ça s'est bien passé, voilà. Mais ça peut aussi mal se passer. Et je dis, franchement, j'ai pas kiffé, tu vois. Mm. Ça peut arriver. Au cinéma, c'est différent. Et donc sur Divertimento, ce que j'allais vous raconter. Un jour, je suis appelé par la réalisatrice, elle me dit, voilà, on est en post-prod, et au montage, on s'est rendu compte qu'on allait monter deux scènes dans l'autre sens que ce que j'avais imaginé à la base. Et donc, toi, il y a une scène où tu dis, tu vas en parler au fils du maire, et j'aimerais que tu viennes en studio pour réenregistrer ta voix par-dessus ta voix pour dire, tu en as parlé au fils du maire. Et donc, moi, je viens en studio, et je dis, et t'en as parlé au fils du maire? Et ils enregistrent juste ça, et ils le collent sur ma voix comme si c'était un doublage, et le « et tu vas en parler au fils du maire » est devenu « et t'en as parlé au fils du maire ». Et quand on regarde le film, même moi, alors que je l'ai fait, je vois pas la diff.
Wow.
Je vois pas la différence. Et là, tu te dis, tu bosses avec des magiciens, quoi. Que ce soit la réalisatrice, la première assistante, le monteur, l'ingé son, tout ça. C'est des magiciens. Ils travaillent super bien. Et du coup, les gens regardent le film, aucune idée de rien. Ils ont l'impression qu'on a fait tout ça en une journée. En fait, c'est plusieurs mois de travail et c'est assez magique. Et ça, tu l'as moins au théâtre, mais t'as une autre magie. Au théâtre, t'as la magie de l'instant qui n'appartient qu'à nous et qui est vraiment extraordinaire.
Et est-ce que t'as des nouveaux projets dans le domaine de l'acting, enfin, de cinéma, télé? Est-ce qu'un jour t'aimerais écrire un film ou réaliser un film?
Alors, réaliser un film, pour être totalement honnête, je m'en sens pas capable. Je trouve que c'est une très très grosse entreprise, une très très grosse machine, et surtout qui joue à des endroits où je suis pas totalement prêt à porter un film. En gros, si demain il y a une prod qui arrive et qui me dit voilà, le chèque est là, t'as juste à diriger, à faire ce que tu veux, ça m'amuse, ça me régale. Moi, aujourd'hui, on fait, le grand public connaît peut-être pas, donc les auditeurs de Radio Alpha vont peut-être pas tilter, mais on fait ce qu'on appelle des self-tapes. Avant, les castings, systématiquement, t'avais rendez-vous avec un directeur de casting, il te filmait avec une petite caméra, il montrait tes essais au réalisateur, et au producteur, t'étais pris ou t'étais pas pris. Maintenant, on te demande de te filmer toi chez toi avec ton téléphone, d'envoyer ça par WeTransfer ou que sais-je, ils regardent. Et si c'est bien, tu viens voir le directeur de casting pour un deuxième essai, etc. Et moi, mes self-tapes, je fais des réals, des montages, c'est des mini-courts-métrages à chaque fois, et je me régale, j'adore ça. Mais porter un film, c'est différent. Ça fait appel à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres savoirs, notamment des voilà, il faut avoir des connaissances autres que juste l'artistique et dire, ouais, tu vas là, tu dis ça, et c'est trop marrant, et on se marre. Donc moi, j'ai déjà réalisé avec des copains, et ça m'éclate, mais porter un film, c'est compliqué. Écrire un film, c'est encore différent. Je pense que pour qu'un film soit bien écrit, j'en suis convaincu, il faut une écriture collective. J'en suis convaincu, je pense que tu ne peux pas écrire un film comme t'écris une pièce, comme t'écris un roman. Je pense vraiment, sauf si t'écris dans un premier temps et qu'ils arrivent dans un deuxième, troisième temps, mais il y a un endroit dans le processus de travail où il faut être plusieurs. Donc pourquoi pas, ça pourrait m'éclater d'écrire à plusieurs. Ça, c'est vraiment un truc que je connais moins et qui pourrait m'éclater. Et après, pour mes projets à l'image, bah, j'en ai quelques-uns, notamment un qui me tient à cœur, c'est la nouvelle saison d'Afropolitaine dont t'as parlé il y a quelques secondes. Et ça me tient à cœur particulièrement, d'abord parce que j'adore cette série, mais surtout parce que je vais partir tourner au Bénin et je connais pas ce pays et je suis ravi que mon personnage, mais quelle riche idée, je leur ai dit, mais quelle riche idée d'avoir fait partir mon personnage au Bénin. J'en suis ravi et je leur ai dit tout de suite, j'ai dit, mon personnage part au Bénin, je l'accompagne évidemment. Donc non, je suis ravi d'aller tourner au Bénin. Franchement, je suis très content. Et ça, c'est pour ça devait être décembre. Ça a été retardé pour des affaires de production, mais ça c'est pour janvier. Et je suis vraiment très très content. Donc ça, c'est mon petit bonbon, quoi. Je l'attends avec impatience. Donc là, je vais jusqu'à fin novembre avec le spectacle. Et après, je fais les fêtes de Noël. Et je sais qu'en janvier, je vais me régaler, quoi.
Trop bien. Bah, tu nous tiendras au courant. En tout cas, merci beaucoup pour toutes tes réponses. N'oubliez pas d'aller voir La Fleur au Fusil, participer à notre concours dès demain. Tu restes avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 16h. Et d'ici 5 minutes, ce sera le moment de l'actu sport. Et en attendant, la dernière musique que tu as choisie, Prince Ali.
Alors, je peux dire un petit mot, même par-dessus la musique,
vas-y,
juste un petit mot. J'ai choisi Prince Ali parce que ça fait référence à Aladdin. J'ai eu la chance de jouer Aladdin pendant plus de 10 ans dans des théâtres magnifiques, notamment le Palais Royal, écrit et mis en scène par Jean-Philippe Daguerre, qui est le même metteur en scène que La Fleur au Fusil. Et j'ai décidé de passer cette musique aujourd'hui parce que on a perdu un camarade de cette équipe, qui était non seulement mon camarade de scène, mais aussi mon camarade de loge. Il s'appelle Philippe Arbeil. Ce sont ses funérailles aujourd'hui. Je peux pas y assister parce que je joue ce soir et parce que c'est à l'autre bout de la France dans son village natal. Mais je voulais profiter du fait d'être à l'antenne pour passer cette musique et penser très fort à lui et lui rendre hommage. Et je voulais le citer à la radio. Philippe, où que tu sois, je pense à toi très fort.
Merci pour ce bel hommage. Et du coup, tout de suite, Prince Ali de Richard Dabord.
Prince Ali, plus fort que lui, je n'en connais pas. Qui vous porte d'un bout d'habit à bout de bras.
Il a vaincu une armée.
Tout seul avec son épée.
La terreur des ennemis, c'est Prince Ali.
Il a 103 chameaux et chamelles.
Sont-ils pas mignons, Simon?
Tant pis, dirige dans leur pub.
Des gorilles qu'ils protègent de leurs ailes. Ce zoo est un sous-corne de bouc.
C'est une super ménagerie.
Prince Ali, oui, c'est bien lui. Ali à Baba.
Quel physique, c'est magnétique. Il est charmant.
Il y a du monde au balcon.
Moitié du voile au menton.
Et tout le monde s'évanouit pour Prince Ali.
Votre fille si jolie.
Voilà pourquoi en cortège cet amoureux vous assiège.
Avec votre éléphant que je les accompagne. Sur ses pieds les lions sont différents. Ses 40 vagues sa batterie de chef. Ses oiseaux qui
Tempestade de Spontan sur Radio Alpha, c'est le moment de l'actu sport et cette semaine a été exceptionnelle pour le sport portugais. Elle a encore été marquée par des podiums et des titres mondiaux dans des disciplines variées. Je ne sais pas si vous suivez le sport, Lionel, tu suis.
Bien sûr, le handball portugais.
Oui, alors on va parler de beaucoup de sports. Je pense que tu ne les suis pas tous. Parce qu'on commence tout d'abord
alors,
par
méfie-toi. Ah. Parce que j'ai une passion. Chaîne de sport à 2h du mat. J'ai déjà regardé des championnats de pétanque. J'ai déjà regardé le championnat de l'homme le plus fort du monde. J'ai même déjà regardé, et tiens-toi bien, sur l'équipe TV à 2 du mat, un championnat de, comment on appelle ça, Ushkering, les petites voitures que tu fabriques toi-même dans la montagne, et t'as pas de, tu vois, et tu descends et t'as des freins de vélo que t'as fabriqué toi-même. Là, je sais plus comment ça s'appelle, les caisses à savon. Un championnat de caisses à savon. Faut y aller quand même, hein. Donc, surprends-moi.
Ok, alors là, on commence par les mondiaux d'athlétisme adapté. Je sais pas si tu regardes. Ça a été disputé en Inde et ça a souri aux couleurs du Portugal puisque Mamudo Balde a décroché une super médaille de bronze sur les 100 mètres T54 parcourus en 13,86 secondes.
Athlétisme adapté, c'est des gens en situation de handicap.
Exactement. Okay. Il n'a été devancé que par le Thaïlandais, dont je ne dirai pas le nom, et le Chinois Hu Yang, auteur d'un record personnel.
C'est de la discrimination, madame. Vous faites de la discrimination aux consonnes. Sous prétexte qu'il y a plus de consonnes que de voyelles dans son nom, vous refusez de le dire à la radio.
Je peux essayer le Thaïlandais Atiwa Pangnuea.
Allez, pas mal.
Qui a fait 13,66 secondes, et le Chinois Hu Yang, du coup, 13,81.
Hu Yang, c'est plus facile déjà.
Oui.
En fait, il faut que les gars qui gagnent, ils aient des petits surnoms. Sinon, on est battus, quoi.
Exactement. Et donc c'était le deuxième podium portugais dans ces championnats après la médaille d'argent obtenue par Miguel Monteiro au lancer du poids F40, catégorie réservée aux athlètes de petite stature.
Après Julie, si le nom est trop compliqué à dire, tu peux biaiser à la radio. Tu trompes les gens, tu dis mon chouchou.
Oui.
Tu dis le Taïwanais, mon chouchou. C'était mon chouchou dans la compète. Moi, j'ai suivi, c'est mon chouchou. Et comme ça, tu passes.
C'est pas mal, effectivement. On passe au sport mécanique, puisque la vitesse et l'endurance étaient aussi à l'honneur cette semaine, notamment avec le pilote Alexandre Pinto, qui est devenu champion du monde de rally raid dans la catégorie SSV, un exploit qui consacre une saison exceptionnelle. Et sur les pistes marocaines, Maria Luis Gamero s'est également illustrée en remportant la coupe féminine de la Baja de Marruecos. cerise sur le gâteau, elle a terminé deuxième général des voitures, une performance d'une grande importance.
Mais qu'est-ce qu'ils sont forts ces Portugais.
Côté paddle, à l'occasion du mondial jeune de paddle, la sélection féminine portugaise a réalisé un parcours exceptionnel jusqu'à la finale, ne s'inclinant que face à l'intouchable équipe d'Espagne.
Je peux pas cautionner ce sport.
Pourquoi?
Parce que c'est n'importe quoi. Le paddle, c'est des gens qui savent pas jouer au tennis. Tu les mets dans une boîte, ils s'amusent. C'est des hamsters qui savent pas jouer au tennis. Le paddle, c'est le nouveau squash, tu sais. C'est des sports de bobos avec de la bedaine qui veulent faire semblant d'aller faire du sport. Ils transpirent pendant une heure, ils ont perdu que de l'eau. Et puis après, hey, j'étais au paddle. Ah, pousse-toi de là.
Eh bien, on change de sport. Alors, en gymnastique, lors de la Coupe du Monde de trampoline en France, Gabriel Albuquerque et Lucas Sanch ont conquis une belle médaille de bronze en synchronisation.
Alors ça, c'est extraordinaire. Les gens sous-cotent vachement le trampoline, parce qu'on pense au trampoline dans le jardin et tout. Ils font des figures de dingo. Je sais pas si vous avez déjà fait du trampoline en mode pour de vrai. Il y a un moment donné, t'arrives à des hauteurs où même toi, tu te mets le vertige tout seul. C'est extraordinaire comme sport, ça.
C'est vrai. Et en cyclisme, rien à voir. Lors des championnats d'Europe sur les routes de France, le Portugais Lucas Lopes s'est classé 8e de la course sur route U23.
Tu dis rien à voir parce qu'il est 8e et pas champion. C'est
non,
horrible pour lui.
Parce que cyclisme et trampoline n'ont rien
sûr.
À voir.
D'ailleurs, cyclisme et trampoline en même temps, ça peut faire un nouveau sport qu'on peut inventer et ça peut être un délire.
Ça peut être très très dangereux, je pense. Et en escrime, les frères Flazin ont également brillé en Espagne. Miguel Flazin a conquis la médaille d'or et Philippe Flazin celle de bronze lors de la première étape du circuit espagnol d'épée disputé à Medina del Campo à Valladolid.
Pardon, je te coupe encore, mais c'est pas un délire. Imagine, t'es la mère de ces gamins. Les deux en même temps sur le même podium, c'est des tueurs, non?
C'est pas mal.
Quand c'est en équipe comme les frères Lebrun au ping-pong, tu dis ils sont en équipe, mais là les deux concurrents et il y en a un qui prend l'or et l'autre l'argent. Ben, bravo.
C'est vrai. Bravo à eux. Et pour les sports de glisse, la surfeuse Yolanda Hopkins a confirmé son statut de référence sur le circuit international en terminant 3e de Elisade Pro, étape des Challenger Series. Et de leur côté, les bodyboarders portugais ont également brillé en Espagne lors de la 3e étape du circuit européen à Las Palmas de Gran Canaria. Joël Rodriguez s'est imposé dans la catégorie Open tandis que Vicente Kempsch a pris la 2e place chez les juniors. Chez les femmes, Teresa Padrella et Luana Dourado ont terminé 2e et 4e en Open féminin, un podium presque entièrement portugais donc. Et ensuite, impossible de ne pas saluer l'exploit de la sélection portugaise U19 de futsal qui a remporté le championnat d'Europe pour la 2e fois consécutive, une finale disputée en Moldavie et les jeunes ont battu l'Espagne 3-2. Il faut bien qu'on les batte quelque part. Et pour conclure cette semaine historique, une page se tourne dans le football portugais. Adrien Silva a annoncé la fin de sa carrière à l'âge de 36 ans. Le milieu de terrain passé par Monaco, qui a remporté l'Euro 2016 avec le Portugal et 4 coupes du Portugal avec le Sporting CP et l'Académie Coimbra, laissera le souvenir d'un joueur d'une grande intelligence tactique et d'un courage exemplaire, qualité qui lui ont promis de briller au plus haut niveau.
Et pour compléter cette info, Cristiano Ronaldo aurait dit déjà. Il semble rien.
Ça m'étonne pas. Mais du coup, cette semaine, du sprint aux vagues, le sport portugais a vraiment eu beaucoup de succès sur tous les fronts. Bravo à toutes et tous les sportifs et sportives portugais. Et juste après, on change de registre. Ce sera Artenhondes avec Laura. Et tout de suite, on s'écoute le dernier single de la grande Aya Nakamura. C'est Désarmé.
J'ai trouvé mon âme sœur. Mon cœur a mal quand il est loin, mon âme pleure. Je t'ai pas rencontré plus tôt. C'est comme ça qu'il faut s'occuper de moi. Tu leur as mis quelle vitesse. Cette émotion en moi est vitale. Femme alpha, alpha, oméga. Dans la vie je fais des tales. Cette osmose entre toi et moi. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Avec toi ça coule de source. Mais tu l'as ressenti. Il use de ses charmes, ses yeux me désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. J'use de mes charmes, mes yeux le désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. Elle me rend petite, avec lui je suis unique. Il me rend petite, avec lui je suis d'humeur taquine. J'ai capté que j'étais piquée quand je maîtrisais pas du tout mes émotions. Non. Ce moment c'est trop méchant, oh my god, dépassé par toutes mes émotions. Y'a comme un souci, je suis sa bombe à son bord, qui sauterait pour moi dans tous les cas. Il aime ma poussie, à tout moment je peux sauter, l'endroit c'est pas du tout son souci. C'est pas son souci. Mon chéri, viens me déguster, je t'as la bouche bien, bien aiguisée. Sa tête que j'ai la vision, et vas-y viens, viens, viens déguster. Cette os- osmose entre toi et moi. Tu l'as ressenti, avec toi ça coule de source. Mais tu l'as ressenti. Il use de ses charmes, ses yeux me désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. J'use de mes charmes, mes yeux le désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. Elle aura un petit, avec lui je suis unie. Elle aura un petit, avec lui je suis d'humeur. Elle aura un petit, avec lui je suis unique. Elle aura un petit, avec lui je suis d'humeur.
Está a ouvir o Tempo Estado dos Pontos 1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou o tempo para Arte em Ondas. O que é que apresentas hoje, Laura?
Então, como já se percebeu, esta temporada continuo a falar de arte, arte urbana, mas também decidi expandir os meus horizontes, porque afinal podemos encontrar arte em todos os lugares, não só na rua, nos museus, mas também na própria maneira de vestir-nos. Então, hoje, vou falar do fenómeno da semana. Já ouviram falar ou ouviram fotografias do tema da minha rúbrica?
Eu acho que sim, mas se calhar engano-me.
Não, eu não.
Tem a ver com os pés, não é?
Exatamente.
Ah, OnlyFan.
Não, então o que é que acontece quando uma cidade e a sua influência encontram-se com a moda? É o que a Nike quis capturar na sua mais recente criação. A Nike
Air Max Vi passar.
Lisboa.
Ah, sim, eu também vi.
Sim.
As únicas TN bonitas.
Exatamente, com muito.
Escrito Lisboa ou Portugal? Não, Lisboa, Lisboa, sim.
Exatamente. Então o modelo foi lançado oficialmente esta semana, 9 de outubro, e faz parte da série City Inspired, em que a marca americana homenageia cidades europeias que marcaram a cultura urbana, como Marselha, Brixton, Berlim ou Nápoles. Agora chegou a vez de Lisboa brilhar literalmente. Então as Nike Air Max Plus, conhecidas como TN, são muito mais do que um par de ténis. Lançadas originalmente em 1988, nasceram como um ícone da rua, especialmente nos subúrbios europeus, em França, Itália e sim também em Portugal. Tornaram-se num símbolo do estilo, da atitude, até de pertença a uma geração. Por isso, não é qualquer cidade que ganha a sua edição TN, é preciso ter uma alma que se sinta no betão. A versão Lisboa é uma homenagem declarada à estética e à alma portuguesa. Foi pensada com muitos detalhes. A parte superior é feita em mesh branco e azul, mais precisamente três tons de azul, inspirados não só no mar, mas também nos azulejos tradicionais, obviamente. Esses padrões que encontramos nas fachadas da cidade, nos elétricos, nas estações antigas. A sola é translúcida, revelando por baixo um motivo que lembra a calçada portuguesa. E há detalhes dourados que piscam o olho ao sol lisboeta, mas também à bandeira da cidade e uma pequena inscrição Lisboa, que se lê discretamente na lingueta, outra palavra que aprendi esta semana. E então, para dar corpo a esta homenagem, a Nike e a Foot Locker quiseram trabalhar com vozes e rostos da cidade. Entre os nomes escolhidos, destaca-se Confer, artista visual lisboeta que já apresentei cá, conhecido pelo seu trabalho que mistura design gráfico, arte digital e identidade urbana. Confer ajudou a traduzir a Lisboa contemporânea, não apenas a das ruas antigas e dos elétricos, mas também a das novas vozes criativas, das artes visuais e do design emergente, e criou uma peça, a TN, afinal, uma peça como as peças que costuma fazer. Mas ele não veio sozinho. Na campanha participam também o rapper Julinho KSD, que acho que conhecem, que é uma figura Adoro. Central do hip-hop crioulo e português, Yuri NR5, outro nome forte do rap lisboeta, o jogador de futebol Giovanni Quenda, não sei também se o conhecem, e a DJ e estilista Sinotsin, do coletivo Dengo. É um grupo diverso que espalha a Lisboa de hoje, multicultural, criativa, com muito ritmo e pouca paciência para rótulos. A mensagem da campanha é clara: Lisboa é nossa. Uma frase simples, mas carregada de significado. É um gesto de apropriação positiva, um convite para os lisboetas, sobretudo os mais jovens, verem a sua cidade conhecida no objeto global. Porque, no fundo, o que essas colaborações mostram é que as cidades têm voz, têm estética, têm energia própria. De um lado, há quem veja nessas colaborações uma tentativa de dar palco à cultura local, de mostrar que Lisboa não é só fado e azulejos, é também rap, design, rua e novas narrativas. Do outro, como sempre, há quem critica a apropriação comercial dessas mesmas referências, transformando símbolos culturais em produtos de luxo, inacessíveis a muitos dos que realmente vivem essa cultura. É o eterno debate entre autenticidade e consumo. Mas talvez o segredo esteja no meio. Se uma marca global consegue abrir espaço para artistas como Confer ou para vozes como Julinho e KPSD, talvez o impacto vá para além do produto. E há, de facto, qualquer coisa de simbólico nisto. Ver uma TN, um modelo tantas vezes associado à rua, à juventude dos bairros, transformada num tributo à cidade, feito por quem vive e respira essa realidade. Os sneakers não são hoje mais do que calçado. São tela, manifesto, identidade. E a TN Lisboa é isso, é um pedaço de cidade que se veste nos pés. Então, se vale a pena, sim, acho que vale, não só pelo design, mas pela conversa que abre. Porque falar das TN Lisboa é falar da forma como as marcas olham para as cidades e, mais importante, como as cidades se olham a si próprias. E se há coisa que Lisboa tem de sobra, é história para contar, agora também nos ténis. Então, será que vão querer comprar?
Eu não. Não, mas vou-lhes dizer porquê. É que eu acho que o desenho é muito lindo e, aliás, fui ver agora que eu estava a ouvir o que estavas a dizer e fui ver na internet, no meu telemóvel, as outras cidades, uhum. Marselha e Nápoles e etc. E eu acho que é as mais lindas que eles fizeram e, né, uma coisa de chauvinismo ou não sei o quê. Realmente eu acho que elas são muito lindas, o desenho é muito lindo, sim. A parte arte que foi feita é muito linda. Mas a TN, eu já não posso com essa composição.
Eu, quando
eu era jovem, eu tive alguns dois ou três pares dessa sapatilha, mas eu agora acho que ela é símbolo de outra coisa que já não uhum. sou e que eu não posso pôr. Mas eu gosto muito de sapatilhas originais e com parceria com artistas e etc. Até tenho hoje um par de sapatos que foram feitos para um artista de rua que chama-se Vex. Portanto, eu gosto. E gosto do desenho, mas a TN não posso. Se calhar vou roubar o desenho da Nike para fazer eu mesmo ou com outro artista noutras sapatilhas e depois vou ter a minha própria par de sapatos.
Ok, vamos ver então. Estamos à espera então.
A próxima vez que eu venho aqui, tenho a minha própria Lisboa.
Ok, boa. Obrigada, Laura, por me apresentar. Não sei, Liliana, Antonão, Ana, se vocês querem essa TN ou não.
Também sou da equipa que não posso ver as TNs.
Ah,
mas se fosse numas outras sapatilhas qualquer, talvez. Ou talvez se eu fazia eu próprio.
Exatamente.
Também vocês podem outro. Fazer juntos.
Menos
e
mal.
Sabes que eu já fui ver na internet pintura especial para fazer nas sapatilhas e eu já tive ideia de fazer. E no ano passado, para o Festival da Avenida, eu queria fazer uma sapatilha, comprar uma sapatilha branca e fazer com a identidade do meu espetáculo, com um cravo, com a identidade do meu espetáculo. E depois eu não tive tempo, não fiz. Mas eu tenho essa ideia. E portanto, eu há bocadinho, quando estava a dizer vou roubar o desenho da Nike, se calhar vou fazer, vocês não sabem.
e até. Que seja branco ou em sapatilhas pretas, podes fazer com bleach, Lu Javel.
Pode ser
incrível, é super simples, faço sempre isso com roupa e é incrível. A minha recomendação do fim de semana.
Obrigada. Faz lá um tutu depois do programa. Mas então, obrigada, Laura, pela apresentação. Voltamos daqui a 5 minutos para os Bom Pronto. Mas primeiro vamos ficar, acho que é algo que é muito lisboeta, mesmo sem mais a antiga. É fado, mas fado contemporâneo, com a Carminho. É uma música com Laurie Anderson e chama-se Saber.
Saber é saber saber-te.
Não é
saper mono sonne.
Learning to bond.
Unir mono. E conhecer mono.
Bonding is knowing.
Saber mostrar. Por fim ser mono.
Another
and last. Saber
mono. And last being.
Saber mono.
Being is knowing. Being is knowing. By learning.
Conhecer.
Hidden.
A surda.
Knowing, knowing is knowing.
Saber, saber, saber.
We do. Learning.
Knowing
is knowing. Knowing is knowing.
Dirmos reconhecermos.
Ourselves.
Sabermos ser. Por fim. Sabermos, sabermos,
sabermos,
sabermos,
being is knowing. Our hidden barriers. Our hidden barriers.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission Themestade de Chponton touche à sa fin, mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Alors le gala de Cap Magellan est de retour. On peut vous donner la date, ce sera le 15 novembre. Et en allant sur le site capmagellan.com, vous pouvez dès à présent vous inscrire jusqu'au 31 octobre. Et l'appel à candidature pour les prix a été prolongé jusqu'au 22 octobre. Il y a donc le prix Cap Magellan du meilleur étudiant avec Novadert, le prix Cap Magellan Imperio Assurance du meilleur projet associatif, le prix Cap Magellan Fidelidad du meilleur jeune entrepreneur, le prix Cap Magellan Banque BCP de la meilleure initiative citoyenne. Ces quatre prix-là sont donc d'une valeur de 1500 euros, non négligeable donc. Je vous invite donc à envoyer vos candidatures. Et pour la meilleure révélation musicale, c'est un prix Cap Magellan Themestade de Chponton, un prix non financier, mais
vous avez pas mis d'oseille les filles.
On vous accompagnera très très bien, je vous jure. Donc je vous invite à envoyer vos candidatures. Pour ce faire, il faut télécharger le formulaire sur le site capmagellan.com et le retourner jusqu'au 22 octobre, soit par courrier, soit par mail à info@capmagellan.org. Pour les événements à venir, le 8 novembre, vous pourrez aller voir la pièce Saudade ici et là-bas. Je sais pas si tu l'as vu.
Je l'ai pas encore vu, j'ai pas eu l'occasion. On joue tout le temps en même temps à chaque fois. Et d'ailleurs, le 8 novembre, je serai sur scène.
Eh bah, c'est bien dommage.
Attends, c'est à quel jour de la semaine?
C'est un samedi.
Ah, je suis sur scène.
Et donc, ce sera à Brie-sur-Marne avec donc Danninger et Isabelle Ribeiro. Je vous invite à aller le voir. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda d'Aluso. N'oubliez pas de suivre Themestade, Chponton et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Lionel.
Merci. Et dans les bons plans de la semaine, il y a la fleur au fusil.
Évidemment.
C'est la
t'inquiète
heure.
Pas, j'allais le dire. Ça fait semaines qu'on en parle dans
Mais
tous
oui,
les bons
vous
plans.
Vous êtes adorable. Merci d'ailleurs. Merci.
Et j'invite vraiment tout le monde à aller voir cette pièce. En plus, c'est court, 1h15 finalement.
Mais
on a tous
oui.
1h15 dans notre vie, surtout à 21h.
C'est 1h15 qui t'enrichit à vie, quoi. C'est
exactement.
1h15 qui te reste dans le cœur pour le reste de ta vie, pour toi et tes enfants.
Exactement, et restez donc connectés demain pour commencer à participer au concours pour aller voir Lionel gratuitement jeudi. Rappelle tes réseaux sociaux peut-être.
C'est mon nom, Lionel Cecilio, et après on a créé une page Insta du spectacle, donc La Fleur au Fusil Spectacle. Voilà, donc vous aurez toutes les infos, et surtout n'hésitez pas à vous connecter sur les Instagram du spectacle, sur l'Instagram du spectacle La Fleur au Fusil Spectacle, parce que de temps en temps on fait des bons plans. C'est vrai que le théâtre, c'est une économie. Parfois
bien
ça vaut
sûr.
Un peu cher, donc nous nos plans tarifs ils sont à 29 euros, et donc régulièrement on fait des bons plans pour les followers avec un petit tarif spécial, etc. C'est pas tout le temps, mais ça peut arriver, donc ça vaut le coup de suivre la page pour pouvoir en bénéficier de temps en temps. Ouais.
Et bah super, alors tout le monde va follow Lionel et la page Insta de La Fleur au Fusil, et tout le monde va voir la pièce La Fleur au Fusil. Je rappelle, c'est les mardis, jeudi, vendredi et samedi à 21h au théâtre de la Huchette jusqu'au 18 novembre, donc il y a le temps, mais il faut quand même se dépêcher parce que ça part vite.
Mais oui, ça va être vitesse folle.
Merci encore d'avoir été avec
merci
nous.
Merci à vous. Merci beaucoup.
À ce soir pour ta pièce, pour ceux qui y seront. Ouais. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. Et je vous laisse avec la dernière musique de David Guetta, celle qui va être dans toutes vos soirées, je n'en doute pas, avec Teddy Swims, Tones and I. Ça s'appelle Gone, Gone, Gone. Bonne semaine à tous. Salut. No way to put out the flame. We were just running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed, or a spot to leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me, I scream your name, through all of the madness, I take the blame,
Ascendentes e dos Lusodependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16, só na Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 0 horas, e podcast do site radioalfa.net.